En novembre 2020, alors que nous vivons une seconde période de confinement et que nous traversons un moment de difficulté économique, il est fort heureusement des entreprises, des startups qui poursuivent leur croissance, engagent de nouvelles collaborations et créent des emplois. Parmi elles, Ocha, plateforme de podcast, jeune startup qui a multiplié les bonnes nouvelles et les collaborations sur les 6 derniers mois. Et pourtant, en raison de cette période étrange que nous vivons, ces bonnes nouvelles ne l'empêchent pas de se transformer, de se réinventer. Alors comment marie-t-on hypercroissance et réorganisation ? C'est forcément facile à repenser une start-up. Bienvenue dans ce 9e épisode des Causeries de la Plaine. Je suis Laurent Tricard, directeur de l'innovation de la Plaine Image, et j'ai le plaisir d'accueillir pour cette causerie Maxime Piquette, cofondateur de Ocha. Bonjour Maxime.
Salut Laurent.
Comment ça va ?
Très bien, merci de m'inviter.
Alors, on va rappeler Ocha. J'évoque Ocha, je devrais évoquer peut-être Icréo. On raconte l'histoire.
On peut raconter très très rapidement l'histoire. C'est l'histoire de mecs qui sont dans leur formation en master informatique et qui décident de se lancer sur un petit projet autour de l'audio, qui décide de permettre finalement facilement de créer une radio sur Internet. On est en 2010, à l'époque. Créer une radio sur Internet, c'est très compliqué. L'iPhone vient tout juste d'arriver et on arrive aussi avec des solutions qui permettent d'écouter facilement une radio depuis un smartphone. Et c'est comme ça qu'on démarre avec Charles, mon associé. On sort de nos études, on commence à faire un petit chiffre d'affaires, mais rien de suffisant pour se rémunérer à deux. Mais on prend le pari, on se dit qu'on a rien à perdre et que, en tout cas, on a des choses aussi à créer et à proposer avec nos compétences et notre savoir. Et on se lance sur Icréo, qui crée très très rapidement la première marque, qui est Radio King, qui permet donc de créer facilement sa propre radio sur Internet.
Et de suivre, ça c'est 2013, voilà, on est en 2013, ouais. Donc Radio King, et puis 5 ans plus tard, donc c'est Ocha, vous passez de la radio web au podcast, évolution naturelle, sachant que Radio King ça existe toujours.
Ouais, bien sûr, alors Radio King ça marche super bien, on est ravis, c'est une boîte qui fonctionne toujours et qu'on développe tout le temps. Par contre, on a effectivement eu une vision en 2017, une vision sur le média de l'audio, plus généralement, en se positionnant sur un fait qui était clair, qui était que la façon dont on consommait, et encore aujourd'hui, la façon dont on consomme aujourd'hui les médias, a considérablement changé avec l'arrivée d'Internet. Et ce qui est important de préciser, c'est que c'est pas tant Internet c'est pas le fait de consommer sur Internet qui change les choses, c'est le fait que Internet permet de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire jusqu'à présent avec les technologies qu'on avait. Et notamment, Internet permet d'avoir une consommation à la demande. Internet permet, à tous de proposer du contenu, là où avant c'était réservé aux médias, aux entreprises qui éditaient des médias. Aujourd'hui, tu as un catalogue incroyable et finalement, chacun peut être son propre éditeur d'information ou de divertissement. Et puis, tu as aussi cette idée que Internet te permet d'avoir une mobilité incroyable qui répond à nos nouveaux usages, qui répond à nos nouveaux méthodes, notre nouvelle façon de vivre aussi, qui est beaucoup plus mobile. Et aujourd'hui, avec Internet, avec ton smartphone, forcément, tu embarques ta consommation médiatique avec toi n'importe où. Et donc, il faut que ça soit extrêmement simple de pouvoir le faire depuis un smartphone.
Alors, en préambule, je disais Ocha, mais on peut intégrer Radio King, grosso modo. Donc, la maison mère Icréo, avec ces deux marques, j'ai parlé d'hypercroissance. Est-ce que tu confirmes ce terme ?
Ouais, je pense qu'on peut dire ça. Et embaucher 10 personnes sur les 3 derniers mois, je pense qu'on peut se parler d'hypercroissance.
Voilà. Donc ça sont au-delà des embauches, il y a beaucoup de collaborations, il y a eu beaucoup de signatures avec des clients assez prestigieux là côté Ocha, notamment beaucoup de médias, de médias traditionnels. Donc vous êtes en plein boom. Concrètement, l'époque est bonne pour vous.
Alors l'époque est bonne pour nous parce que le podcast est un média qui est extrêmement demandé aujourd'hui et en pleine éclosion. Un chiffre pour bien comprendre de quoi on se parle. En octobre de cette année, on a eu une étude de CSA et de Havas Paris, de l'Institut CSA et de Havas Paris, qui indique que il y a 14% des Français qui écoutent chaque semaine des podcasts. Et si on regarde l'année dernière, c'était 9%. Ça veut dire qu'en un an, t'as 5% de plus de la population française qui ont découvert en seulement un an le podcast et qui ont pris ça comme une habitude puisqu'ils l'écoutent chaque semaine. Et ça, pour nous, c'est incroyable. Et évidemment, ça, c'est le côté plus écoute. Mais quand il y a de l'écoute, ben forcément, il y a de la demande aussi. Il y a de l'offre plutôt qui arrive avec la création de podcasts en face.
Alors, votre offre, c'est de l'hébergement. C'est une solution de technologique avec toute la partie statistique, analytics qui permet effectivement aux producteurs de podcasts de... Bah, d'avancer, de se transformer, d'imaginer, de savoir où sont leurs auditeurs, etc., etc. Aujourd'hui, c'est quoi sur tous les podcasts que vous hébergez, c'est quoi la part de podcasts, on va dire professionnels au sens fait par des médias traditionnels et ceux faits par des particuliers?
Alors déjà, si tu me permets, je vais juste revenir sur ce qu'on fait. Et on n'est pas qu'un hébergeur. En fait, on se définit sur quatre grandes thématiques sur Ocha. C'est ce qu'on propose à travers Ocha. C'est effectivement à la fois un hébergement parce qu'on reste une solution technique. On est un outil de distribution parce qu'on permet de s'interconnecter ultra facilement avec les plateformes d'écoute telles que Apple, Spotify, Deezer, et que finalement, si t'as pas un partenaire comme nous, ça va être très difficile d'être visible sur ces plateformes. On est un outil de promotion. On a beaucoup d'outils aujourd'hui qui permettent de promouvoir son podcast, de pouvoir discuter aussi avec ses auditeurs, d'avoir vraiment cette facilité de communication. Et enfin, on est aussi un système de monétisation, de régie publicitaire. Si tu as de l'audience, on est en capacité aujourd'hui de monétiser ton contenu.
Oui, cette part professionnelle amateur, c'est quoi aujourd'hui?
Et donc pour revenir sur la part entre professionnel et amateur, déjà ce qui est amusant, c'est que quand on sonde nos utilisateurs, plus de 60% nous disent le faire dans un cadre professionnel. C'est-à-dire que bien qu'on ait des indépendants, beaucoup de ces indépendants, à plus de 60% en tout cas, disent le faire aussi dans une idée professionnelle parce que ils vont parler de leur métier, ça va leur faire du réseau, ils vont se faire connaître par ce biais-là aussi. Donc c'est aussi ce fonctionnement-là. Après plus précisément le B2B aujourd'hui chez nous en nombre de podcasts représente une barre évidemment plus infime que les clients plus indépendants qu'on peut avoir chez nous, mais on reste aujourd'hui avec Ocha la plateforme qui enregistre le plus de podcasts de marque actuellement en France.
Vous êtes leader de votre marché?
On est leader de notre marché. On a plus de 3700 podcasts aujourd'hui qui sont hébergés sur Ocha. On est leader sur le marché français, évidemment, et on a quelques velléités à aller chercher le marché européen.
Alors, dans les bonnes nouvelles, il y a eu effectivement, je le disais, des signatures avec des grandes marques, notamment des marques médias. Il y a l'ouverture prochaine ou est-ce déjà réalisé, alors avec le second confinement, d'un studio à Paris?
Ouais, c'est en cours. On est en train de finaliser ça. Effectivement, on ouvre un studio avec la Gaîté Lyrique, qui est un endroit merveilleux en termes de culture. Et on ouvre ça dès décembre. C'est toujours le planning qu'on se fixe. Maintenant, il n'y aura pas une ouverture publique, évidemment. Mais l'idée, c'est que nous, on puisse déjà le proposer à nos clients professionnels de pouvoir utiliser cet espace-là pour leurs besoins.
Alors, effectivement, c'était important de redresser, de refaire le portrait de Ocha, de savoir qui vous étiez et d'où vous veniez. Et c'est vrai que l'envie de te faire témoigner, c'est que je voyais au fur et à mesure du premier confinement, puis du second confinement, c'était une sorte d'hyper-réactivité par rapport effectivement à toutes les questions entrepreneuriales, d'organisation, de process qui étaient posées par cette crise sanitaire qui nous oblige tous à repenser nos habitudes de travail. Et j'ai eu l'impression d'une hyper réactivité avec, c'était il y a 5 mois, donc ça nous ramène à peu près en milieu d'année, cette notion de télétravail libre au sein d'une entreprise. Si tu peux raconter comment vous en êtes arrivé là, comment pourquoi vous avez réagi immédiatement et tout de suite transformé radicalement l'organisation d'Ocha, d'Icréo encore une fois.
Bien sûr. Déjà, comme tu l'as dit, mais comme toute entreprise, un peu du jour au lendemain, on a été forcé contraints finalement de passer l'ensemble de nos équipes du bureau à la maison. Et en plus de ça, historiquement chez nous, on n'a jamais tellement ouvert le télétravail. Il n'y avait pas tellement de télétravail que ça. Enfin, il y en avait, mais c'était pas si répandu ou si fréquent que ça. Donc, on n'avait pas encore cette habitude. Et du jour au lendemain, on nous dit, ah ouais, en fait, vous êtes tous en télétravail. Alors, heureusement, on reste une boîte jeune, start-up, et donc, il y avait déjà plein d'éléments qui faisaient que c'était moins grave pour nous que ça aurait pu l'être pour un grand groupe. On est tous sur des postes indépendants qu'on peut ramener à la maison, c'est facile, etc. Mais en vrai, on a vraiment été quand même contraints de cette situation. Et une fois que t'es contraint, t'as deux choses. C'est soit t'es un peu fataliste, tu dis bon bah c'est comme ça et puis j'attends que ça passe. Soit t'en profites. Et moi j'ai plutôt eu cette vision-là de dire bah attends, je vais profiter de cette contrainte parce qu'en fait ça m'oblige à être dans une nouvelle situation de travail que je trouve extrêmement intéressante. Et donc analysons un peu la situation. Et ce qu'on a fait, c'est très simple, hein, mais à la fin, vers la fin du premier confinement, on a sondé notre équipe. On les a sondés pour dire bah vis-à-vis de la situation qu'on a vécue, vis-à-vis de du travail qu'on a fait ensemble, qu'on a réussi à faire ensemble là, pendant ces deux mois, tous à distance, c'est quoi votre ressenti, vous ? Est-ce que vous avez l'impression de mieux travailler ? Est-ce que c'est plus confortable pour vous ? Est-ce que demain, si vous pouviez, vous souhaiteriez continuer à faire du télétravail ? Quel est votre avis là-dessus ? Et en fait, de façon très majoritaire, l'ensemble de notre équipe a dit on a kiffé le télétravail et on a envie de continuer à pouvoir faire du télétravail comme on veut demain, sans être forcément trop relimité. Et ça a été un premier principe. Et après, le deuxième principe, c'est que historiquement chez nous, on a toujours cette idée de vouloir un peu aussi libérer le travail dans le sens où on part du principe que le travail, c'est aussi un deal entre une entreprise et un collaborateur. C'est une aventure, mais c'est aussi un deal à un moment donné. Et dès lors que le collaborateur, il répond à ce que attend l'entreprise, c'est-à-dire à remplir ses missions avec efficacité, etc., bah, en fait, la façon dont il le fait, on s'en tape complètement. Et si le collaborateur, c'est plus simple pour lui, si c'est plus confortable, si dans son organisation personnelle, c'est plus agréable d'être chez lui pour travailler, et si pour nous, il n'y a pas de contraintes particulières, en quoi on va les forcer à être présents dans un bureau et à venir tous les matins par le métro à 8h et à partir dans le métro à 17h, blablabla. Enfin, vraiment, en quoi on va les amener à se contraindre là-dessus. C'était ça la réflexion. Dès lors que ça marche, dès lors qu'on a vu que la boîte tenait le coup, et là on y est encore sur le deuxième confinement, franchement, je vais être franc avec toi, hein, je vois pas la différence, moi, en termes de productivité, de travail, d'efficacité, au contraire, plutôt bénéfique d'ailleurs, par rapport à une situation d'avant ça, quoi, où on était tous au bureau. Et au contraire, je trouve que ça résout des choses qui sont toujours un peu contraignantes en équipe, etc., notamment sur les espaces partagés en open space, où c'est pas toujours facile de travailler tous ensemble en open space. Chacun est chez lui, chacun peut gérer son propre environnement, il est maître de son environnement et peut créer son propre cadre et sa propre sphère de travail agréable pour lui. Donc on y a vu vraiment l'intérêt dans le sens où pour la boîte ça ne faisait aucun changement, pour les collaborateurs par contre ça apportait un taux de satisfaction qui était ultra élevé et comme nous on a pour mission aussi de faire en sorte que les personnes avec qui on travaille soient contentes de bosser avec nous et qu'elles aient plaisir à faire ça, on s'est dit autant ouvrir. La façon dont on l'a fait, c'est très simple, c'est qu'on a dit vous venez, vous travaillez aujourd'hui chez Creo, c'est à vous de choisir le temps que vous souhaitez passer en télétravail. Et c'était important, c'est qu'on voulait pas non plus forcer le télétravail. Parce que à l'inverse, on a bien compris que des personnes, pour elles, c'était important de garder du lien, d'être dans les bureaux, de voir du monde. Et on n'avait pas non plus, à l'inverse, envie de obliger quelqu'un qui nous avait rejoint peut-être justement avant cette période-là et qui avait l'habitude de travailler dans les bureaux et qui demain devait être forcé à travailler uniquement chez lui. Et donc on n'avait pas envie de ça. Et donc c'est une gymnastique qui est peut-être un peu plus difficile parce que c'est un entre-deux, mais ça se gère, où tu proposes à tes collaborateurs de faire le télétravail, le temps de télétravail qu'ils veulent. J'ai des personnes qui, avant confinement, venaient quasiment toute la semaine au bureau. Et ben là, je peux te dire, et c'est maintenant acté depuis décembre. J'ai des personnes qui nous disent, bah écoutez, moi maintenant, je suis en full remote. Voilà, vous m'embauchez, je suis en full remote, c'est-à-dire que je ne travaillerai que à la maison. Vous ne me verrez plus jamais, alors que j'habite à 20 minutes du boulot. Et ben pas de souci, si tu préfères travailler comme ça, travaille comme ça.
Ce que je trouve intéressant dans ton témoignage, et je reviens au début de cette explication que tu viens de nous livrer, c'est qu'à la base, tu n'es pas spécialement adepte du télétravail. C'est-à-dire tu viens un peu battre en brèche le cliché de la start-up où forcément on serait dans les habitudes de travail les plus innovantes, on serait forcément très décomplexé par rapport aux bureaux, aux horaires, etc. Ça, tu bats en brèche. Effectivement, tu avais une vision, entre guillemets, tu me permettras l'expression, classique de l'organisation du travail.
Alors, en tout cas, sur le télétravail, oui, on était plutôt classique. Sur les horaires, non, parce que on a toujours eu chez nous des horaires flexibles qui permettent à quelqu'un de pas avoir forcément de devoir arriver à 9h pile et d'avoir plutôt un créneau horaire pour s'adapter en fonction de son besoin. Mais effectivement, sur le télétravail, on a toujours été, pour tout te dire, c'était vraiment une journée par mois, tu pouvais faire du télétravail. Alors tu vois, on est passé de une journée par mois à quelqu'un qui demain fait 100% de son temps. Donc on a vraiment évolué en un court terme. Après, il faut pas s'en cacher non plus, il y a d'autres intérêts que moi j'y ai vus de côté entreprise et qui s'est avéré profitable là ces derniers mois. C'est que dès lors que tu créer une entreprise où le télétravail est la norme, parce que t'es obligé, même s'il y a des personnes qui travaillent au bureau, t'es obligé de dire, bah dès lors qu'il y a des personnes qui sont en télétravail, le télétravail est la norme, c'est-à-dire qu'on s'adapte tous à ce nouveau mode de fonctionnement, c'est-à-dire bah les réunions à présent, même si t'es au bureau, elles se feront tout le temps à distance. C'est pas possible sinon, alors sauf si vraiment tout le monde est au bureau, mais sinon dans la majorité, grande majorité des cas, elles vont tout le temps se faire à distance. Et dès lors que tu t'adaptes sur ça, ça te permet de faire que le télétravail est une norme, et donc ça te permet aussi d'aller embaucher des personnes qui ne sont plus à 20 km autour de ton bureau, mais qui peuvent être partout en France. Là, sur les 3 derniers mois, on a embauché 3 personnes qui s'avèrent ne pas être du tout à proximité de l'un de nos bureaux, et ça nous pose aucun souci.
Discussion pour ces recrutements, ça s'est fait en distanciel, en pur distanciel. Il y a des gens maintenant qui font partie d'Icréo qui ne sont jamais venus dans les bureaux, que tu n'as jamais rencontrés physiquement.
Ah, totalement. Il y en a beaucoup d'ailleurs que j'ai recruté là, ces dernières semaines que je n'ai jamais vu en vrai. Mais après, je les ai vus en visio. J'ai envie de dire, enfin. Ce que tu vois en visio, c'est pas non plus. Moi, j'ai l'impression que parfois, on a l'impression de dire que ce que le ressenti que t'as en visio, parfois, on a l'impression que chez certaines personnes, c'est totalement différent de ce que tu pourrais avoir en réel. Alors que non, faut pas déconner. L'image et le son retransmettent la même chose que ce qu'il y a derrière. Donc, y a pas une déformation à un moment donné quand ça passe par le tuyau, quoi. Donc, les personnes que j'ai pu voir en entretien, les personnes que je vois aujourd'hui au sein de mes équipes et que je n'ai jamais rencontrées en physique, je comprends bien que si demain je devais les voir et qu'elles passaient dans le bureau, franchement, notre relation, notre façon d'être, elle en serait pas modifiée. Je serais pas étonné de les voir parce que je les ai vues tellement de fois maintenant que bah, je sais comment elle fonctionne, etc. Et les voir en vrai, c'est juste un autre canal de diffusion.
Alors, néanmoins, je voyais sur le réseau LinkedIn où tu as posté régulièrement des nouvelles sur effectivement cette manière dont vous aviez transformé l'entreprise et transformé cette gestion des ressources humaines. Vous avez mis en place une machine à café virtuelle, c'est-à-dire que quand même, il y a besoin de ces... Alors, est-ce que je vais dire temps mort ? Est-ce que tu es d'accord avec ce temps
Je dirais des temps de vie, moi, mais chacun a sa façon de voir les choses.
Donc, ces temps de vie, il y a besoin de les recréer, quand même. Il y a besoin qu'ils existent.
Ah ouais, totalement. Alors, ça, c'est indéniable. C'est que dès lors que tu changes ta méthodologie de travail, tout ce que tu as fait jusqu'à présent, tu vois, je vais te donner un exemple. Moi, jusqu'à présent, avec mes équipes, chaque matin, qu'on était hors confinement, chaque lundi matin, je faisais un peu un point et on prenait même tous un petit déjeuner, tous ensemble, le lundi matin. C'était notre routine, à 10h, on prenait un petit déjeuner, je faisais un petit point aux équipes pour leur donner un peu les dernières nouvelles. Voilà, confinement arrive, on a toujours besoin de donner des news aux équipes et donc on se réinvente. J'ai testé plein de choses, j'ai testé de le faire en vidéo parce que je voulais durant le confinement qu'il y ait toujours ce côté un peu humain de se voir, etc. Et au final maintenant je le fais en podcast parce que je me dis ils en ont peut-être assez marre de voir ma tête et puis ça a plus de sens aussi de le faire en audio pour nous. Mais pour revenir sur la machine à café, c'est vraiment cette idée de dire comme on n'a plus ces moments un peu aléatoires où on croisait quelqu'un à côté d'un bureau, justement dans la cuisine, etc., pour se faire un café, on essaie de recréer ces moments aléatoires, mais de façon virtuelle. Et souvent on a ce côté où un peu cliché de se dire si c'est virtuel, c'est pas vrai ou c'est pas sincère. Non, c'est juste que c'est pratique. Le fait de le faire virtuellement et de façon automatique, c'est juste que c'est pratique et ça permet de répondre à la même chose. Comment ça marche? C'est chaque lundi matin, il y a un robot qui aléatoirement prend la liste de toutes les personnes qui seront là cette semaine et va faire des matchs de 5 personnes. Il y a 5 personnes, des groupes de 5 personnes. Donc chaque semaine, tu as plusieurs groupes de 5 personnes qui sont constitués. Et chaque membre de ce groupe va créer un événement dans la semaine. Généralement, on fait ça le vendredi après-midi. Et pendant 30 minutes, il invite toutes les personnes de son groupe à un café virtuel. Et là, on sait que c'est un moment temps mort, enfin temps de vie plutôt, tu vois, j'ai même pris des expressions, temps de vie où on partage juste, on échange, qu'est-ce que tu vas faire ce week-end, etc. C'est quoi les nouveautés chez toi, voilà. Et c'est important parce que ça recrée un peu de cohésion qu'on a plus sinon, même si, pareil, il y a d'autres adaptations qu'on a vu chez nous opérer, dans les réunions notamment, où on fait plus non plus les réunions de la même manière exactement.
Pour essayer de gagner du temps, ou de moins perdre de temps en visio, devant l'écran?
Non, pour réapporter des moments de vie aussi dans la réunion. C'est-à-dire qu'avant toute réunion, désormais, il y a vraiment ce côté un peu météo où on demande à chacun, on se prend toujours un peu 5 minutes avant de démarrer une réunion, en mode ça va, etc., c'est quoi les news, on se permet de déconner, c'est pas très long, c'est 5 minutes et tout, on connaît la météo de chacun, qui va bien, qui va un peu moins bien et tout, on prend un peu des nouvelles de chacun, et après on commence la réunion. Là où, quand t'es au boulot en présentiel, tu fais pas ça, quoi. Ok, c'est quoi le sujet? Ok, on y va, bam, bam, bam. Et comme là, on se voit plus, justement, on recrée aussi ces habitudes dans les réunions, de recréer juste ce petit instant de vie où on discute 5 minutes avant de commencer.
Aujourd'hui, alors, face à cette 10 embauches en 3 mois, là, c'est quand même lourd pour une jeune boîte. Donc, t'as l'impression de passer beaucoup plus de temps au-delà des recrutements, mais... T'as l'impression de passer beaucoup plus de temps dans cette question des ressources humaines du fait de la situation, du fait que toi-même tu es dû t'adapter. Est-ce que c'est une tâche qui te pèse un peu plus?
Alors, on avait beaucoup plus de temps, clairement, en ressources humaines, ça c'est certain. Notamment parce que on a eu beaucoup d'embauches, certes, mais aussi en raison de la distance, on est obligé de justement ce que je te disais, c'est de se réinventer, d'imaginer comment travailler. Pareil, c'est que t'as des boîtes, et c'était un peu notre cas, qui fonctionnent beaucoup à l'oral, c'est-à-dire que on partage l'information de façon orale, on se voit, on se dit les choses tous ensemble, etc. Sauf que quand t'es à distance, quand tu prends cette habitude là maintenant c'est terminé, et donc tu dois aller sur une culture aussi de l'écrit, où maintenant on a mis en place chez nous des outils qui permettent vraiment de garder ce qu'on se dit de façon écrite, et c'est ultra efficace soit dit en passant. À côté de ça, il s'avère que on a beaucoup retravaillé notre onboarding. Toute personne qui est embauchée chez nous reçoit un carton. Et quand je te dis un carton, c'est pas une petite boîte, c'est un carton vraiment carton de déménagement, si tu veux l'idée. Dans ce carton, il y a une très jolie boîte design, etc., très sympa et tout, avec tout ton package de onboarding. Ton Mac qui est préconfiguré, ton écran, ta souris, tes goodies, ton pull, etc. T'as tout ce qu'il faut pour démarrer et tu reçois ça chez toi dès lors que tu commences chez nous, juste avant de commencer chez nous. Donc ça, pareil, tu vois, c'est un truc qu'on faisait pas avant. Et ben, on a dû s'adapter, une logistique particulière à envoyer ce type de colis. C'est un peu particulier, mais on s'est adapté.
Je sais que tu échanges beaucoup avec d'autres chefs d'entreprise et c'est logique. Tu partages beaucoup sur ces questions-là.
Ouais, moi j'aime bien échanger sur ces questions-là. Moi j'aime bien, mais tu vois comme je le fais là, j'aime bien être très transparent sur ce qu'on fait nous, parce que je me dis toujours, bah tiens, ça peut peut-être aider d'autres boîtes à imaginer des choses qu'elles n'ont pas imaginées. Comme moi d'ailleurs, je le fais aussi quand j'écoute d'autres chefs d'entreprise. Je m'inspire souvent de ce que je peux entendre, je me fais mon propre avis, et puis après, soit je reprends un peu, j'adapte, ou sinon je laisse. Mais je trouve que c'est intéressant en tout cas de partager ça, surtout par rapport à la situation actuelle. Où bah tu le disais, nous ça va, on a cette chance là, super. Après moi je pense beaucoup aussi aux entreprises chez qui ça va beaucoup moins bien. Cette phase d'adaptation aussi au télétravail est peut-être moins évidente pour elles, parce que bah quand ça va pas et que le CA ne rentre plus, bah forcément t'as un peu moins de facilité à avoir du recul sur les méthodologies de télétravail. Et donc, bah ouais, j'aime bien partager là-dessus. Si ça peut aider certains, j'en suis très, très content.
Tu as le sentiment que, de par, vous allez bien, vous êtes sur une activité qui est digitale, donc il y a aussi probablement une facilité générationnelle à prendre cette nouvelle posture, même si tu as avoué que ce n'était pas à la base ta culture, que c'était pas... Tu as l'impression que du coup vous êtes un peu vous avez mis des choses assez radicales entre guillemets en place. Est-ce que tu as l'impression que vous êtes aux avant-gardes de ce que sera le travail dans une décennie ou dans plusieurs décennies que vous êtes en train d'écrire? Je pense notamment c'est assez renversant quand même d'embaucher quelqu'un à distance et de d'avoir peut-être déjà plusieurs mois de collaboration avec cette personne sans qu'il y ait eu de rencontre physique. C'est une période un peu inédite qu'on est en train de vivre quand même.
Ouais, totalement. Est-ce que c'est quelque chose? Je pense très clairement que on sortira de ce confinement et beaucoup de boîtes, ça sera la même chose avec des nouvelles règles et nouvelles méthodes. Je te dis pas que demain tout va changer et que toute entreprise demain va s'ouvrir comme nous à un télétravail libre. Je crois pas. Je crois qu'il y a encore des entreprises où c'est pas leur culture, simplement sans les juger d'ailleurs, parce que c'est pas leur culture. Chacun sa culture. Nous, ça correspondait aussi à notre culture et ça a bien matché. Ce qui est certain, c'est que pour nous, c'est sûr que cette période-là a considérablement changé notre façon de faire. Ce que je dirais aussi, c'est que on est dans un marché et on est en concurrence avec d'autres entreprises, pas uniquement sur notre marché podcast ou audio en soi. Je suis en concurrence avec toutes les boîtes digitales là qui sont typiquement sur l'île, parce que quand je veux des talents, forcément je me bagarre sur les talents parce qu'on cherche les mêmes sur l'île, par exemple, d'un point de vue digital. Forcément. Demain, avec cette proposition que j'ai, qui est que chez nous, le télétravail est libre et qu'un collaborateur peut venir chez nous et nous dire qu'il veut faire 4 jours de télétravail, ça pose pas de problème, j'ai un avantage qui est concurrentiel important par rapport à ces autres boîtes. Et donc, dès lors qu'une entreprise comme la mienne, et d'autres le font déjà, très certainement, dès qu'une entreprise propose ça, forcément, t'es quand même un peu obligé de t'adapter malgré si t'as pas envie de le faire, parce que ça va néanmoins, et on le voit hein, notamment sur les populations digitales, c'est quelque chose qu'elles attendent, les développeurs, les développeuses, c'est quelque chose qu'ils attendent d'avoir cette flexibilité encore plus vis-à-vis du travail. Et donc, je pense que, en tout cas dans notre domaine, c'est certain que beaucoup d'entreprises vont devoir s'adapter et que le télétravail demain va devenir une règle beaucoup plus importante qu'elle ne l'était avant confinement. Moi, tu vois, j'aimais même un rêve demain. Je sais pas encore comment on va y arriver. Ce sera peut-être l'étape, la prochaine étape. C'est que l'étape une pour nous, c'était quand on a commencé, c'était de recruter autour de Lille. Après, on a ouvert un bureau à Paris. On a commencé à recruter à côté de Paris. C'était bizarre aussi de recruter pas dans la même ville que toi. C'est un peu bizarre. La nouvelle étape maintenant, c'est qu'on recrute en France. J'ai envie de te dire, l'étape suivante, ça va être de recruter partout dans le monde. Et là, c'est un truc qui est encore plus incroyable, qui a un changement encore plus incroyable, parce que dès lors que tu recrutes partout dans le monde, t'adaptes tout, et notamment ta langue. Ta langue n'est plus le français, ta langue est l'anglais forcément. Et donc, voilà, je me dis que ça sera peut-être l'une de nos prochaines étapes, et pourquoi pas, demain, pouvoir recruter n'importe où dans le monde, d'avoir des équipes n'importe où dans le monde, de travailler tous ensemble, dans le même sens, avec la même mission, avec la même culture néanmoins, et voilà, et d'avoir un projet fou, mais qui n'a pas forcément de domicile.
À travers ce non-détail qu'est le télétravail, la présence au bureau ou non, le présentiel, le distanciel, est-ce que tu penses que ça refait penser à, ça remet en question ce qu'est fondamentalement une entreprise, un projet d'entreprise ? Une fois que tu évacues les bureaux, qu'est-ce qui reste ?
Je trouve que c'est vraiment super intéressant, ce moment qu'on vit. Alors, il s'avère que moi, j'adore travailler avec les équipes. J'adore travailler dans les bureaux et j'adore travailler avec les équipes. Donc, tu vois, je vais vraiment à l'inverse de ce que j'aime. Moi, j'aime profondément travailler avec les équipes, être en présence, être avec l'ensemble de ma team, etc. Et malgré ça, je trouve quand même que c'est très... Très intéressant de voir des modèles qui se construisent effectivement un peu comme Internet fonctionne, finalement totalement en réseau, mais pas un réseau centralisé qui se trouve au même endroit. Et c'est ça qui est intéressant. Et ça veut dire que ce fonctionnement en réseau, tu peux avoir des personnes qui sont n'importe où en France, et je te disais, peut-être même aussi n'importe où dans le monde, avec des compétences ultra fortes. Et qu'est-ce qui fait que se voir physiquement, être dans un bureau particulier, va tout changer ? Alors, ça, je te dis ça maintenant. Moi, je suis à une étape de la boîte où, c'est peut-être plus simple pour nous parce que la culture de l'entreprise, les valeurs de l'entreprise, ça fait maintenant 7 ans qu'on les a définies. Peut-être que ça serait beaucoup plus dur, je l'avoue, pour une entreprise qui vient tout juste de se créer, d'avoir ce modèle-là. Mais encore, tu vois, même en te le disant, je n'en suis pas certain. Je pense que c'est quelque chose qui s'adapte, c'est quelque chose qui se travaille. Et à chaque fois que, parfois quand j'en parle, certaines personnes disent, cherchent à chaque fois de trouver des excuses en fait à ce mode de fonctionnement, en disant mais comment tu fais ta culture, comment va fonctionner la créativité, etc. Et en fait, moi ma seule réponse c'est de dire mais tous ces éléments là, si vous n'avez pas encore trouvé la solution, c'est que vous n'avez pas assez cherché. C'est que forcément il y a un moyen de répondre à ça. Oui, la créativité, faut aller la chercher différemment peut-être. Il faut peut-être recréer des process, des fonctionnements, des réunions un peu plus différentes pour créer cette créativité sur la culture d'entreprise. Et ben, pourquoi elle passerait pas aussi par le digital ? Je pourrais te parler de ce qu'on fait pour Noël. C'est pour moi c'est assez emblématique. Franchement, on fait un Noël qui est totalement digital et je suis hyper content de ce qu'on est en train de prévoir avec les équipes sur Noël, parce que c'est un vrai moment de vie qu'on va tous vivre ensemble à distance. Et c'est fou.
Tu crains pas le déconfinement, le second déconfinement ? Tu vas le vivre sereinement ? À partir du moment où il est dit officiellement, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez revenir au bureau ?
Ah, du tout.
Là, je parle de effectivement la voie étatique, la voie officielle qui... Non, toi, ça...
Non, non, non.
Vous êtes en place et ça vivra comme ça doit vivre selon... au gré de chacun.
Totalement. Alors, et puis en plus de ça, je préciserai aussi que j'ai hâte, comme tout le monde, que le déconfinement arrive, parce que ça sera signe de bonnes nouvelles pour la santé de tous et aussi pour les entreprises qui sont actuellement en incapacité de pouvoir travailler normalement. Et au contraire, non, moi j'ai aucune crainte sur le déconfinement. Au contraire, j'ai vraiment le souhait à ce qu'on puisse se déconfiner parce que on a des équipes, on a des membres dans notre équipe qui ont envie de revenir au bureau. Et pour qui, là, la situation, ben, elle commence à se faire long, c'est compliqué, eux, c'est pas leur mode de fonctionnement, et on les oblige à être en télétravail aujourd'hui. Et tu vois, on les oblige. J'aime pas cette fonction-là, j'aime pas ce mode-là. J'aime pas obliger mes équipes à travailler d'une certaine manière. Je préfère les libérer, leur dire, non, mais moi, j'ai confiance en vous, les gars, et les meufs, et travaillez comme vous voulez, tant que vous remplissez vos missions avec brio. Mais franchement, que vous soyez en pyjama ou en costard-cravate, j'en ai rien à faire. C'est, si vous êtes bon dans ce que vous faites, aucun souci. Mais soyez bien, soyez dans une bonne posture pour bosser, pour avancer ensemble sur le projet.
Maxime, merci beaucoup pour ce moment et cette présentation d'effectivement de l'état des lieux. On est le 27 novembre. On a enregistré ce podcast sans nos masques parce que nous sommes à une distance suffisante pour que nous ne prenions pas de risques. Et il me reste à te souhaiter un mois à l'avance, un joyeux Noël, puisque visiblement tu attends avec impatience ce moment, notamment partagé avec ton équipe et puis j'imagine avec tes proches.
Exactement. Je crois qu'on attend tout ça, ça va nous faire du bien. Merci à toi Laurent pour cette invitation.